France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Les Français adorent la pizza, ça c'est une certitude, à tel point que nous sommes les deuxièmes plus gros mangeurs de pizza au monde, derrière les Américains et devant les Italiens.
Oh, oui. Tu savais que Vivaldi, il a écrit les 4 saisons parce que son père était pizzaiolo?
Nous engloutissons, tenez-vous bien, 26 pizzas chaque seconde en France.
Pour moi, c'est la meilleure, la pizza Marseillaise. Je prends pas de croissant, je prends une pizza le matin.
La finale du meilleur de la pizza en camion sur la place Paul Ricard à Marseille.
Une pizza au fromage et rien que pour moi.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. La pizza est-elle vraiment italienne? J'ose cette question, on pourrait en douter. Tellement elle fait désormais partie de notre paysage alimentaire. Margherita, Regina et même hawaïenne dans une pizzeria, au camion ou livrée à domicile, la pizza arrive en tête des plats préférés des Français. Nous sommes les deuxièmes plus gros consommateurs au monde de pizza juste après les États-Unis, mais devant l'Italie. On nous le disait dans l'accroche de cette émission, avec en moyenne, tenez-vous bien, 10 kilos de pizza engloutis par an et par habitant. Comment la pizza est-elle devenue une passion française? Comment l'aime-t-on? Quelles sont nos recettes préférées? Comment les Italiens voient ce drôle d'encouement francese, et bien de Marseille à Bordeaux, en passant par Paris, évidemment, on décrypte ce pizzavorisme avec nos deux invités du jour, Alessandra Pierini, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Impossible de faire une émission pizza sans vous?
Je suis bien volontiers.
Vous avez...
Du plateau.
Vous avez arboré un beau t-shirt?
Ah oui, avec une grosse pizza.
Une grosse pizza à Margherita, non? Ah non, non, peut-être... Peut-être pepperoni, non?
Non, peut-être pepperoni, oui, avec cette tache rouge.
Vous êtes notre spécialiste de la cucina italiana dans cette émission. Vous êtes aussi marseillaise, vous avez été marseillaise d'adoption. Vous allez nous raconter comment, effectivement, la pizza est devenue une obsession française. Marseille y est pour quelque chose, on va le voir. Bartolo Calderon, buongiorno.
Bonjour tout le monde.
Sicilien d'origine, mais avec un français... Parfait. Installé en France depuis quelle année?
2013.
Vous êtes à la tête de Capelli, une pizzeria à Bordeaux, c'est bien ça?
Exactement.
Ouverte une fois par semaine?
Une fois par semaine, oui. Dimanche, comme on va déguster.
Sauf aujourd'hui?
Oui, sauf aujourd'hui.
Vous êtes avec nous?
Exact.
Mais c'est une fois par semaine parce que par ailleurs, évidemment, vous tenez une super école. Vous avez fondé l'école professionnelle de pizza et de panification naturelle. Ça donne avec le sigle...
EPPPN.
C'est ça. Et vous êtes même, vous présidez le Convivium Slow Food Bordeaux. Et on va voir que vous avez une vision particulière de la pizza, assez affranchie, on va le dire, de ses racines italiennes et très très intéressante sur le plan nutritionnel, écologique. On va en parler ensemble, c'est tout à fait intéressant pour nous accompagner tout au long de cette émission. Notre gourmet lettré Stéphane Solier et notre chroniqueur vin Jérôme Gagnès. Salut les copains.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Stéphane.
Alors moi, je vais me poser la question, comment la pizza a petit à petit pris ses aises dans la tambouille littéraire française?
Jérôme?
BDX.
BDX. BDX. Bordeaux.
BDX.
Bordeaux.
Ah bah exactement, bravo.
Bordeaux.
On ne peut rien vous cacher.
Bordeaux pour la pizza, Bordeaux pour le vin, très bien. Et vous, la pizza, vous l'aimez comment? Racontez-nous votre relation à ce totem alimentaire en direct sur franceinter.fr ou sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com. Et retrouvez toutes nos infos, notre carnet d'adresses, oui, un super carnet d'adresses qu'on vous a composé sur les pizzas dans toute la France. Et nos recettes de pizza, celles de notre invité Bartolo. Tout ça, c'est sur franceinter.fr, à la page on va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Vous connaissez la tradition, chers amis, juste avant de parler pizza, je vous ai d'abord apporté une pizza, une surprise gourmande. Non, ce n'est pas une pizza, c'est même une boisson que vous allez déguster à l'aveugle. Allez-y, petite bouteille en verre. Il y a une chaussette autour, évidemment. Alors, il y a un point commun, c'est qu'il s'agit à peu près d'une même boisson, mais vous avez, chacun d'entre vous, un parfum, une aromatique différente... Goûter, appréhender cette boisson.
Alors moi j'ai l'impression...
Stéphane Solier, il attaque.
Oui, j'attaque. J'ai l'impression, ça m'est très familier, j'espère ne pas me tromper, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de la menthe.
Bravo. Alors, infusion de menthe poivrée, vous l'avez, avec un jus de quelque chose. Réfléchissez. Qui veut prendre la parole ?
Moi, j'ai l'impression...
Jérôme Gagnaise.
Ça fait effectivement infusion.
Oui.
Il y avait des notes de thé.
Oui.
Mais il y a de l'hibiscus, j'ai l'impression.
Pas tout à fait.
Non, mais alors, c'est d'une couleur qui est plutôt... c'est un rouge rubis très très clair.
Oui.
C'est à peine sucré.
C'est vrai.
Il y a une petite suavité. Mm-hmm. Ça reste assez frais. C'est très désaltérant.
Le point commun de vos quatre infusions glacées, c'est qu'elles mêlent un jus de fruits avec une infusion de plantes.
Et peut-être du raisin, pour moi.
Bartolo.
Est-ce que du raisin ou de la framboise avec du thé ?
Il y a un fruit rouge.
Il y a un fruit rouge. Et
Alessandra ?
Peut-être pour moi, myrtille. Myrtille, cassis.
Ah, on est dans cet univers.
Avec de la verveine.
Non.
C'est très difficile. Hein,
je sais. C'est très difficile. Merci. Tout simplement parce que c'est l'association d'une plante médicinale avec un jus de fruits donne justement une aromatique différente. Alors, je ne cherche pas à vous piéger. Hein. Mm-hmm. Mais vous voulez le résultat des jeux ?
Ah, oui. Bah oui.
Ah oui.
Jérôme, vous avez une infusion intitulée Calme. Je pensais que ça allait vous faire du bien. Jus de framboise, infusion de verveine.
Ah, okay.
À moins qu'on ait inversé les bouteilles, mais normalement c'est ce que vous avez. Alessandra Pierini,
non, c'est ça.
Vous avez la bouteille Stimule, infusion de romarin et jus de griotte.
Ah, super.
Stéphane, eh ben, il a été bon parce qu'il a trouvé quand même la menthe poivrée associée à du jus de pomme.
Wow.
Et Bartolo, une détox. Alors vous, c'était digeste. Et Bartolo, une détox, infusion de feuilles de cassis et de jus de cassis.
Ok.
Vous aimez ou pas ?
C'est délicieux.
C'est
désaltérant, très intéressant.
Très bon. C'est très délicat.
Oui.
On est vraiment dans un jeu d'équilibre
magnifique.
Remarquable. Mmh.
Très rafraîchissant.
Ah, oui.
Très bon.
Eh bien, c'est une collection d'infusions glacées que l'on trouve désormais dans de nombreux magasins bio et à la carte de nombreux restaurants et coffee shops. Des bouteilles en verre de 25 centilitres de la maison. Tintintin, bien fait. Vous comprenez le jeu de mots, bien fait nutritionnel, mais bien fait dans le sens où les boissons sont bien faites. Et c'est une belle histoire qui a démarré dans les Cévennes, où Marie Denzel a commencé, il y a 25 ans, à cultiver de façon totalement naturelle des plantes médicinales. Et dans les pas de Marie, Antoine Denzel, son fils qui a grandi sur le domaine, reprend en 2020 le projet initié par sa mère. Il est rapidement rejoint par David Wise, qui est un ami d'enfance, et en 2022, il crée cette marque bien fait. Elle est toute jeune, elle a seulement 3 ans, elle se développe assez vite, parce que les plantes sont au cœur de leur projet. Elles sont cultivées évidemment en bio, récoltées à la main, séchées soigneusement, infusées et assemblées à des jus de fruits biologiques, sans aucun sucre ajouté, évidemment. Voilà, à boire très frais, la maison bien fait a créé également des infusions de grande qualité. On vous a mis toutes les infos sur franceinter.fr à la page, on va déguster. Et puis, à noter sur vos tablettes un événement très sympa, le 31 mai, le week-end prochain, à Osgore, dans les paysages idylliques des Landes, pas très loin de chez Jérôme Gagnaise, qui habite Bordeaux, comme on le sait.
Tout à fait.
On est entre Pinède et Océan. Eh bien, aura lieu le championnat du monde de... J'ai bien aimé ça. Le championnat du monde de plancha.
Oh.
Chefs amateurs, débutants ou confirmés, s'affronteront face à un jury de chefs et de personnalités locales. Les candidatures sont déjà bouclées, hein, Bartolo. Okay. Pas la peine d'y participer, le pizzaiolo. Mais vous pouvez assister à cette manifestation gourmande, d'autant que ce championnat du monde de plancha s'inscrit dans le cadre du festival Good Food, Good Mood, bonne bouffe et bonne humeur en bon français, qui se déroulera tout le week-end prochain à Osgore, avec de bons petits plats en plein air, de la musique, voilà, un événement à vivre entre amis ou en famille. Je sens que Jérôme Gagnaise a très envie d'aller y faire un tour.
Mmh. Et malheureusement, je serai dans les Corbières pour une autre manifestation à Mont-Laure, vers le Val d'Agne, et les Pas Gourmands, dimanche 1er juin, et donc voilà, je vais marcher dans les vignes de Corbières.
Ouvert au public ?
Ouvert au public, tout à fait.
Très bien.
Pas Gourmands.
Les Pas Gourmands, dans les
exactement
Corbières.
Exactement, dans les Corbières.
Parfait.
C'est Sophie Guiraudon du Clos de Lannel qui a monté ça. Formidable vigneronne. J'ai fait ma première chronique avec son vin, les Terrassettes.
Eh mais oui, je me souviens
la
très bien.
La toute première chronique.
Très bien, et bien on sera avec vous par la pensée dans les Corbières, cher Jérôme. Au four et au moulin de notre émission, on va déguster. Il y a Laurent Thomas, Frédéric Kiefer et Fabrice Ribaud. Ils se tenaient, figurez-vous, à Marseille, il y a quelques jours, un championnat des camions pizza. On y était. Quelle est la meilleure pizza de camion de Marseille ? Vous allez le savoir dans un instant, juste après un titre de circonstance. Mademoiselle Marseille de Moussuté et les Joventes, choisi par Djoubaka. Vive la pizza sur France Inter.
Mademoiselle Marseille, m'a donné rendez-vous pour sortir avec elle, enfin, mais je ne sais pas où la chercher, la chercher. Il me faut la chercher, oh ouais. La trouver, la trouver. Je dois la retrouver, oh papa. Je vais voir à Saint-Jean et au quartier du Panier. J'interroge les gens pour savoir où elle est. On me dit qu'on l'a vue vendre des limaçons. J'ai beau courir les rues, j'entends pas sa chanson. Enfin, mise et marcilla, montez ses escondida. Enfin, mise et marcilla, Bessaïti si es perdida. Remonte en canebière, j'ai le cœur qui s'emballe. On l'aurait vu hier, ouais, au palais de cristal. Mauvaise limonade, y'a plus que des musées, que des belles façades, mais rien pour s'amuser.
On va déguster.
C'est M. Jean Méritant, qui était steward à bord des bateaux qui circulaient en Méditerranée, qui a eu l'idée de créer la pizza d'abord en remorque, parce que lui-même avait peur de mettre le feu au camion. Chaque fois qu'on voulait manger une pizza à Marseille, il fallait descendre dans le centre-ville. C'était un produit qui plaisait, mais pas de surgelé. Les grandes surfaces n'existaient pratiquement pas. Les commerçants étaient fermés le dimanche et les épouses commençaient à travailler. Donc il fallait des repas vite faits. Les enfants traînaient les parents vers tous les camions de pizza. On était aussi une présence sécurisante parce que souvent le soir, des femmes qui attendaient le bus venaient se réfugier à côté de nous. On a toutes les couches de la société qui se rencontrent devant le camion. Alors que s'ils habitent dans le même immeuble, ils se connaissent peut-être même pas. Des fois, des personnes attendaient jusqu'à une heure dans le camion pour avoir une pizza. Donc les gens ont dit ils font de l'or en barre, ces gens-là. Et ça a été une véritable ruée vers l'or. Tout le monde voulait faire la pizza.
C'était Francis Posito, le président du syndicat des camions pizza, interviewé en 2021 dans une vidéo du journal La Provence. Alors Francis Posito est décédé depuis, hein, en 2023. Il a eu un rôle très important.
Tout à fait.
Dans ce syndicat, parce que le camion pizza est évidemment un emblème de Marseille. Garé devant les cinémas, sur les places, près des bars, devant le stade Vélodrome. Il fait vraiment, Alessandra Pierini, partie du paysage marseillais. Ce paysage marseillais que vous connaissez bien, puisque vous êtes arrivé en 1987, je crois, dans la campagne aixoise.
Tout à fait.
Ça a été quoi votre première réaction d'italienne née à Gênes devant ce camion pizza marseillais?
Ça a été une grande découverte, mais surtout un choc. Pour moi, c'était un véritable ovni qui était garé au bord de la route. Et surtout, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai tout de suite appelé après mes parents pour leur dire « Vous savez quoi ? Ils font de la pizza dans un camion et en plus, ils mettent de l'emmental dessus !»
Et oui,
en plus, une couche bien épaisse d'emmental. Et donc, pour un Italien fraîchement arrivé, c'était vraiment un choc culturel.
Parce que vous savez, Alessandra, quand même, qu'il y a encore beaucoup de Français, et j'imagine pas mal de monde parmi ceux qui, et celles qui nous écoutent, qui pensent que le camion pizza est une importation italienne.
Non, c'est vraiment une invention marseillaise. Marseillaise, et d'ailleurs, comme bien nous l'a dit Monsieur Sposito, qui porte bien son nom, qui est un nom vraiment napolitain, qui est très populaire à Marseille, c'est bien les Marseillais qui l'ont inventé.
Bartolo, vous êtes en France depuis 12 ans?
Oui.
Vous êtes sicilien de naissance?
Exactement.
Votre premier camion pizza, vous en souvenez?
Oui, c'était dans les années 2000. J'étais, bon, pareil, dans la région marseillaise. Mm-hmm. Mais la chose qui m'a tout de suite frappé, c'était voir le pizzaiolo tout seul. Donc, il faisait tout. Accueillir les clients, encaisser, faire les pizzas, étaler. Et donc, je pensais plutôt à l'ergonomie du travail et comment il fait tout seul, tout ça, dans un espace si petit. Et après, au final, je vais une pizzeria qui est toute petite, hein, donc, qui fait la taille d'un camion à pizza.
On peut faire une bonne pizza dans un camion ?
Oui.
Puisque absolument. Vous allez nous montrer qu'on peut faire aussi une bonne pizza, une vraie, dans un studio de France Inter, avec votre four portatif, c'est absolument incroyable. Oui. Il y a une pizza que vous avez déjà composée, qui est en train de chauffer, mm-hmm. dans un four très populaire chez les Italiens.
Oui, c'est comme un gaufrier, c'est un Ferrari, rouge d'ailleurs.
Ouais.
Et il y a deux pierres, et là on est en train de faire fondre le fromage, la mozzarella.
On va la goûter dans un instant, cette merveilleuse pizza signée Bartolo Calderon. Le tout est de savoir quel est le meilleur camion pizza de Marseille. Et bien justement, le samedi 11 mai dernier à Marseille, sur la corniche Kennedy, au niveau de la place Paul Ricard, un championnat d'un nouveau genre s'est déroulé. Les meilleurs camions pizza de la cité phocéenne et de sa région s'affrontaient et furent, attention, hein, c'est du sérieux, départagés par un jury composé de l'humoriste et comédien marseillais Titoff, notre ami Alessandra, notre ami Alba Pezzone, experte napolitaine et autrice d'ailleurs d'un livre que j'ai beaucoup apprécié, Pizza Mania, 110 recettes bien garnies à Naples, Marseille et Paris aux éditions de la Martinière. Mmh. Il y avait également dans ce jury marseillais Hugues Banda, qu'on connaît bien, chef du restaurant Kin à Marseille qui fait une fusion afro-provençale. Mmh. On lui a donné la parole plusieurs fois dans cette émission. Il y avait aussi dans le jury Mona Lisa, influenceuse spécialiste des pizzas marseillaises. Un documentaire diffusé hier soir sur France 3 à 20h40, intitulé « Le meilleur de la pizza en camion », on vous a mis le replay sur notre site internet, a suivi ce concours et a même révélé le vainqueur. Et nos confrères et consoeurs de Huissy Provence ont également suivi ce concours et cette finale. Et le grand gagnant de ce concours a été interviewé par Kevin Colloc, qui anime l'émission quotidienne « Bienvenue chez vous ». Alors vous voulez savoir quel est le camion pizza qui
bien
a gagné
sûr,
et savoir, Alessandra, attention, si vous le connaissez, si vous validez ce palmarès.
On va voir.
C'est le camion M, c'est à Marseille, à Aubagne. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Avec Huissy Provence pour vivre cette finale du meilleur de la pizza en camion, racontez-nous votre histoire. Pur Marseillais ?
Pur Marseillais, dans le sang même, que ce soit dans le foot et dans la bonne mère. Hein. Même mon ancienne pizzeria que j'avais depuis 6 ans, elle s'appelait la Bougnette Pizza. En fait, la bougnette symbolisait en fait la petite tache. Quand on mangeait une pizza, on se tachait, ou même des pâtes, mais c'était plus la pizza, que ma grand-mère disait souvent. Tu t'es bougnetté ou tu t'es fait une petite bougnette. Et après, le camion M, parce que je voulais garder le côté M de Marseille, de Michel-Ange et de mon prénom Michael par la suite. Du coup, pour mettre en avant ce côté Marseille-Provence, j'ai fait une spécialité, ça s'appelle la saucisse de Marseille avec la brousse du Rove. C'est Marcel qui a préparé avec son collaborateur qu'ils ont créé cette saucisse, avec du vin blanc, de la badiane, du jambon de porc et si je ne me trompe pas, un peu de fenouil. En plus, je mets aussi de la brousse du Rove qui est très connue dans le sud, donc à Marseille. Après, je mets un peu de mozza pour que ça permette ce côté donc pizza, mais c'est de la mozzarella française. Et par la suite, je mets des feuilles de fenouil que je prends chez le primeur, mon ami, donc Haricot Magique, mais aussi donc, d'autres primeurs qui sont à Aubagne. Donc je les remercie à tous de me fournir des produits frais. Et pour moi, c'est de mettre des produits frais, mais la base, c'est la pâte. Mais avec les produits frais, ça fait du top.
Alors, camion M, est-ce que vous validez Alessandra Pierini?
Je valide absolument,
non,
je le connais, j'ai mangé sa pizza, moi j'ai mangé sa margherita aux Estrangins devant la préfecture. J'étais avec mon fils, je l'ai grignoté dans les jardins de cour Pierre Puget.
Et oui, parce qu'au four et au volant de camion M, il y a Mickaël Prunier qu'on entendait à l'instant chez nos amis de Huissy Provence et il s'est imposé dans ce concours de la meilleure pizza de camion de Marseille avec une pizza à la saucisse de Marseille sur une base de sauce tomate avec une pâte qui a reposé de 24 à 48 heures. Et effectivement, Alessandra, on retrouve camion M, place Estrangin Pastré dans le 6e arrondissement de Marseille, les lundis, mardis et vendredis et au marché d'Aubagne le samedi. Allez goûter la pizza de camion M. Alessandra Pierini, vous nous confirmez que Marseille a bien été la porte d'entrée de la pizza en France ?
Absolument, c'est bien à Marseille, au début du XXe siècle, donc, que la pizza pose ses valises à Marseille. Il faut déjà dire que c'est grâce à l'immigration italienne, et surtout napolitaine, et à cette époque-là, entre Marseille et Naples, mm-hmm. il y avait vraiment une liaison maritime très régulière. Les Napolitains, donc, arrivaient à Marseille souvent avant de partir pour l'Amérique. Il y en avait beaucoup qui restaient sur place parce qu'il y avait surtout du travail. Il y avait des usines à ce moment-là, les savonneries, les conserveries, le port, le bâtiment.
La cité phocéenne était en plein développement.
En plein développement. Donc, les Napolitains, ils sont arrivés à Marseille dans un certain sens comme une installation un peu involontaire au départ et au même temporaire. Et c'est vraiment ici à Marseille, ils se sont installés sur le Vieux-Port, dans le quartier du Panier et de Saint-Jean. Et c'est vraiment dans ce quartier qu'on a trouvé la trace du premier four à pizza qui date de 1903. Et c'était un endroit qu'on appelait la cantine. La cantine. Et c'était, il n'avait pas encore le nom de la pizzeria. Et donc, on peut imaginer que 1903, c'est 2 ans avant la première pizzeria ouverte à New York. Et c'est 30 ans avant les premières pizzerias installées dans le nord de l'Italie.
Vous êtes en train de nous dire que Marseille, après l'Italie, est le premier site d'implantation de la pizza à l'extérieur de la botte.
Pizza napolitaine, fierté. Surtout. Une grande fierté pour les Marseillais, bien sûr.
Alors ensuite, il y a évidemment le débat autour de cette espèce d'avatar qui a été créé par les Marseillais, que l'on appelle la moitié-moitié. Un Italien la regarde en général avec les gros yeux. Définition de la moitié-moitié.
Là, c'est une pizza, un disque de pizza avec 2 recettes. D'un côté, de la tomate, de l'anchois, un petit peu d'origan, ça fait comme une pizza napolitaine. Oui. Et de l'autre côté, tomate avec une bonne couche d'emmental.
Parce que l'emmental, effectivement, c'était un peu le fromage de remplacement.
Oui, qu'on trouvait
sur place.
Par rapport
à une mozzarella qu'on avait du mal à trouver.
Tout à fait, et puis qui se conservait moins bien. On parle d'il y a une centaine d'années.
Mais en tant qu'Italien et Italienne, Bartolo et Alessandra, est-ce que l'on peut oser revendiquer son amour de la moitié-moitié marseillaise ou est-ce qu'on est obligé de considérer que c'est une hérésie, Bartolo?
Non, c'est pas une hérésie. Mais la pizza a cette capacité à s'adapter, à se réinventer, à se réécrire, donc absolument pas.
Parce que les Italiens sont assez conservateurs en la matière d'habitude.
Oui, absolument. Mais les Italiens, oui. Mais en fait, le succès de la pizza, c'est cette capacité à jamais se figer. Du moment qu'on fige quelque chose, elle va perdre son succès, je pense. Donc il faut absolument toujours la varier. Et c'est cette variété qu'on peut mettre dessus tous les ingrédients qu'on peut ajouter dans une pizza témoigne un peu la vitalité encore de la pizza, qui est encore bien vivante.
Et pourtant, encore une fois, on a le sentiment que dans votre pays d'origine, la pizza est au contraire protégée, codifiée.
Exactement.
Il y a des gardiens du temple qui disent que telle recette doit correspondre à tel ingrédient, telle garniture, attention la pâte ça se fait pas n'importe comment. Vous vous êtes en train de dire au contraire que la pizza est versatile, elle fait en quelque sorte du caméléonisme, elle se fond dans le paysage.
Absolument. Mais c'est vrai que les Italiens, la cuisine a toujours eu une importance pour toute la génération d'immigrés, surtout italiens, ça devient un facteur très identitaire. Mm-hmm. Donc on essaie de le protéger comme cette italianité. Mais la pizza, vraiment, c'est le plat qui peut évoluer. Et c'est comme un palimpseste. J'ai travaillé sur les manuscrits dans mon passé et c'est vraiment des couches. Et on peut réécrire l'histoire de la pizza et on garde en filigrane toujours les traces du passé, mais toujours sur une nouvelle pizza.
Et d'ailleurs, elle est un peu française, votre pizza. Vous pratiquez une pizza tout à fait spéciale. Alors, ça se passe du côté de Bordeaux. On est 3 rue de la Cour des Aides, dans la ville qu'habite Jérôme Gagnès.
Et, de la place Saint-Pierre.
Et Jérôme Gagnès s'est précipité chez Capéry.
Ah oui.
Verdict.
Ah, c'était extraordinaire.
Vous dites ça parce que Bartolo est...
Non, je l'ai même dit hors de sa présence. C'était le fait très marquant pour moi, c'est on mange tous des pizzas de temps en temps. Moi, j'aime beaucoup ça. Il y a une chose qui est systématique dans les pizzas, quasi systématique, c'est que très rapidement, en fait, la pâte, si bonne soit-elle, se ramollit sous l'effet humidificateur de la garniture. Et ce qui était extraordinaire chez Bartolo, c'est que cette pâte est restée longtemps très, très croustillante. Tout à fait d'ailleurs comme la pizza qui nous a été servie à l'instant. Cette pâte est vraiment hors norme. Et je vous assure que c'est vraiment pour moi la meilleure pâte à pizza que j'ai jamais mangée.
Oula, c'est ça va.
Merci.
On va la goûter parce que vous nous avez servi. Précisons quand même, Bartolo Calderon, c'est un exploit que vous avez fait cuire una margherita. Alors on parle de pizza créative, ça va être dans un deuxième temps parce que la margherita c'est quand même évidemment l'alpha et l'oméga de la pizza italienne et on peut en trouver de très bonnes en France. Cuite dans un four qui ressemble à rien, qui doit peser 2 kilos,
oui.
Et qui en même temps a ses pierres réfractaires qui permettent de bien griller. Et là, vous nous avez préparé comme ça une pizza dans le studio. Comment définir votre pizza? Est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est à la fois engagée sur le plan nutritionnel, écologique?
Oui, la pizza est réalisée, celle qu'on est en train de déguster, est réalisée avec une farine française. Donc ma pizza, oui, elle a quelque chose de français, déjà à l'utilisation de la matière première comme la farine. C'est des farines semi-complètes sur molde des pierres en bio. Donc on valorise un peu la filière locale du blé. Et en France, quand même, on a une tradition meunière incroyable. Donc pourquoi pas prendre un blé français.
C'est possible.
Bah, absolument, c'est
on
juste une question.
On dit toujours à 0-0, il faut utiliser des farines italiennes blindées en gluten pour qu'il y ait une fermentation efficace.
C'est une question de maîtrise. Et en fait, il faut juste maîtriser. C'est une question vraiment de maîtrise du pizzaiolo, de savoir-faire. Du moment qu'on arrive à maîtriser les fermentations, on peut panifier tout, notamment des farines et des semences paysannes, comme c'est le cas aujourd'hui avec nos pizzas au levain.
Vous vous payez le luxe d'utiliser des blés anciens pour faire une pizza qui paraît tellement digeste, moelleuse. Tiens, il a la bouche pleine, qu'est-ce qu'il en pense, c'est pas collier.
Ça, c'est pas sympa, François.
Ça, c'est pas sympa, j'arrive pas à lui parler.
Franchement.
Non, elle est bonne ou pas?
Oh là là.
C'est incroyable. Incroyable. Avec un goût de céréales profond. C'est une fermentation au levain.
Oui, c'est une fermentation au levain naturel, exactement. Et ben, le levain, il va donner tout ce goût et il va un peu marquer les caractéristiques ben, de la farine, qualitative et nutritionnelle de la farine. Donc, c'est un outil indispensable, le levain, pour ce bouquet aromatique dans la pizza finale.
Mais comment vous êtes tombé dans la pizza Bartolo et dans la pizza en France, à Bordeaux? Que s'est-il passé?
Moi, je suis arrivé en France pour mes recherches de post-doctorat. Donc, j'avais fait un doctorat en Italie, oui.
Un doctorat sur quoi? Non, parce que, attention, on a affaire à un pizzaiolo qui a une... Enfin, c'est une tronche aussi.
Un fin lettré.
Oui.
Non, c'est juste, oui. Donc, j'ai découvert, bon, déjà la culture française.
Ah, il veut pas nous donner le sujet de son doctorat.
Si, avec plaisir. J'ai travaillé sur Pétrarque et la littérature européenne. Mais Pétrarque, c'est... J'ai eu la chance vraiment de travailler sur le manuscrit d'ailleurs et sur un poète extraordinaire pour la culture européenne qui est Pétrarque. Et donc j'ai travaillé aussi en France. Et donc voilà, je suis arrivé en France et je suis resté au final.
Mais alors la pizza?
Mais la pizza, en fait, j'ai eu la chance d'avoir aussi mon oncle qui était restaurateur en Sicile. Ouais. Et donc j'ai travaillé depuis que je suis tout petit dans une pizzeria en Sicile. Et après, pour payer mes études, toujours travailler dans des pizzerias, dans des restaurants pendant mes années universitaires.
Et vous avez fondé l'école dont vous allez nommer...
Le PPPN, oui, l'école professionnelle de pizza et panification naturelle.
Alors là, c'est une structure de formation
oui.
Pour des pizzaioli qui viennent d'horizons différents, j'imagine, mais principalement des Français.
Oui, principalement des
amateurs
Français.
Amateurs ou professionnels?
En fait, c'est des formations à but professionnel. C'est vraiment un centre de formation professionnelle certifiant et on forme les gens qui ont envie de faire ça comme métier, de devenir pizzaiolo, monter des pizzerias, monter des camions à pizza et s'installer.
Et vous leur apprenez cette pâte formidable?
Oui, entre autres.
Alors, on a vraiment une bonne nouvelle à mes auditeurs et auditrices, c'est que, attention, hein, il a été généreux, Bartolo, la pâte à pizza... Avec évidemment ces farines T80, donc
oui.
On est presque sur des farines complètes.
Oui, une semi-complète, une T80, bien foncée.
Française, à base de blé ancien, si on y a accès évidemment, eh bien on a tout le protocole sur le site internet de l'émission pour faire le levain qui va servir à fermenter cette pâte à pizza, et tout le processus pour faire la pâte à pizza idéale, nommée meilleure du monde par Jérôme Gagnez.
Bon,
c'est une sacrée performance. On vient vous voir pourquoi, j'imagine qu'on n'a pas envie de faire la pizza bodybuildée, on vient plutôt pour... On vient dans une démarche engagée lorsqu'on vient dans votre école.
Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui, c'est vrai, ils ont choisi notre école pour une démarche engagée. Et ensuite, il y a beaucoup de pizzaiolos qui arrivent comme quand on va chez la coiffeuse ou chez le coiffeur avec une photo de la pizza en me disant « je veux faire ça ». Donc il y a des pizzas un peu plus instagrammables. Et donc on fait tout à l'école. On montre qu'est-ce qu'on peut faire avec une pâte à pizza. Donc du moment qu'on maîtrise les fermentations, le levain, on peut tout faire. Et après, derrière, il y a quand même le volet engagement qui est indispensable, je pense, aujourd'hui. Donc il faut quand même un peu revoir un peu la filière du blé et des céréales. Et donc nous, en l'occurrence, on est spécialisés dans des farines de blé ancien, locales, et
bien.
En tout cas français.
Et on va voir dans un instant avec une autre pizza merveilleuse, qu'en plus, la pizza peut être une espèce de page blanche, ouverte à l'inspiration et à la créativité. Et on peut faire des choses assez extraordinaires. C'est incroyable qu'un pizzaiolo italien comme ça encourage justement à faire de la pizza un vrai plat créatif.
Absolument, oui. Mais les élèves, à la fin de la formation, ils font leur pizza, ils créent un menu. Et à chaque fois, il y a toujours un ingrédient, une histoire. Et c'est très émouvant parce que chacun ajoute quand même une touche, comme le palimpseste. Donc il y a toujours une autre couche qui va s'ajouter à l'histoire de la pizza. Et c'est touchant parfois. Parfois, il y a des ratés. Hein. On met de la viande de morue, on met beaucoup de choses qui peuvent être un peu...
Parce que c'est vrai, Alessandra, un petit mot sur tous ces avatars que l'on trouve au fil de nos régions. Entre la pizza tartiflette... En Savoie,
oui,
bon, la fameuse
hawaïenne, la véronaise, la figatelli. Bon,
tout n'est pas permis quand même.
Tout n'est pas permis. Il faut quand même garder. La pizza peut avoir quand même une certaine dignité une fois qu'elle sort de Naples. Mais il faut quand même faire attention, surtout au savoir-faire du pizzaïole, au territoire et surtout aux produits.
Donc la pizza peut s'adapter et être un peu couleur locale, mais parfois il y a des excès de sucre, figues, miel, on en a déjà goûté vraiment très très sucré.
Figues, chèvre, miel. Voilà, on dirait un peu pour un napolitain, c'est une salade de bistrot parisien mise sur la pizza. Donc, ce n'est pas tout à fait vraiment le goût qu'il faut pour garnir une pizza.
Je crois qu'on gardera quand même de cette émission, la pizza doit garder sa dignité.
Ah oui, elle reste italienne, Alessandra. Donc, la pizza, une obsession française avec, on l'a vu, évidemment, ses fulgurances, mais également ses petits excès et ses dérives. Et notre littérature, tiens, contient de nombreuses preuves de cette passion.
France Inter, on va déguster.
Stéphane Solier, vous nous montrez en quoi la pizza est une héroïne de notre littérature.
Oui, ça n'a pas été simple. Hein. Elle est aujourd'hui une véritable icône de la food mondiale. La pop culture a su se l'approprier. En littérature aussi, elle se taille aujourd'hui la part du lion, mais le chemin a été long. Et ce chemin éclaire aussi un peu la manière dont les Français l'ont adopté petit à petit. Les premières occurrences de la pizza à la sauce littéraire française, d'abord, la montrent comme un objet exotique. Et on le doit à Alexandre Dumas.
Ah, encore lui.
Et oui, c'est vrai que j'ai une obsession aussi pour Alexandre Dumas, mais là, pour le coup, je ne pouvais pas faire autrement. C'est un italophile, c'est un italophage, il a vécu en Italie, et dans son Coricolo, qui est une impression de voyage dans le royaume de Naples, en 1843, il nous donne, pour la première fois, le mot pizza dans la langue et la littérature française. Il l'a décrit ainsi, c'est le régime du petit peuple napolitain, donc du Lazzarone, et il explique, la pizza est une espèce de talmouse, comme on en fait à Saint-Denis. Elle est de forme ronde et se pétrit de la même pâte que le pain. Au premier abord, la pizza semble un mets simple. Après examen, c'est un mets composé. La pizza est à l'huile, la pizza est au lard, la pizza est au saindoux, la pizza est au fromage, la pizza est aux tomates, la pizza est aux petits poissons. C'est le thermomètre gastronomique du marché. Après cette première apparition fulgurante dans la littérature française du milieu du 19e, la pizza connaît une longue éclipse. Preuve que les auteurs français, même ceux qui voyagent, ne voient pas en ce mets de rue, bon pour les bouches affamées, une réalité digne d'intérêt. En fait, sa représentation littéraire suit exactement l'appropriation du mot par la langue française. Il faut attendre les années 60, hein, si on se fonde sur les graphiques que l'on trouve par exemple sur le site de lalanguefrançaise.com, il faut attendre les années 60 pour trouver le mot pizza et pizzeria dans la langue française, dans le journal Le Monde par exemple aussi, et dans la littérature. Mais là encore, et donc les années 2000, on va attendre les années 2000 pour qu'elle triomphe en reine, sans jeu de mots. Mais là encore, la littérature est révélatrice des usages du temps. La pizza qu'évoque Simone de Beauvoir dans la dernière partie de son roman Les Mandarins de 1954 est un usage alimentaire et social étranger, en l'occurrence américain, puisque son héroïne arrive aux États-Unis et mange une pizza dans une pizzeria avec un amant américain. La pizza dont parle Charles X. Braya dans son polar humoristique Aimez-vous la pizza, publié en 1960, est une pizza de Naples, à Naples, puisque l'intrigue se déroule à Naples. Peu à peu, c'est au cours des années 60-70 que la pizza et la pizzeria s'installent dans le paysage sociologique et littéraire français, comme en témoignent les polars ou romans de gare. de cette époque commence pour elle plutôt, malheureusement, un temps de purgatoire, hein, où elle semble expier ses fautes, hein, parce que la pizza adoptée par les Français devient, dans ces romans-là, le symbole de la nourriture pour ados négligés, pour rebelles, pour adultes pressés ou esselés.
Hein. La malbouffe, quoi.
Ah oui, avec sa garniture et son fromage dégoulinant, la pizza incarne une alimentation tout en un et la vie effrénée moderne. Je prends juste un exemple dans l'œuvre de Michel Houellebecq, hein, dans les années 90, dans Extension du domaine de la lutte, hein, Tisserand incarne, le héros incarne bien comme d'autres héros, par ses habitudes alimentaires, l'homme occidental avec sa misère sexuelle, sa solitude, sa malbouffe. Un petit passage, 2 heures plus tard, la nuit tombée, je suis ressorti de mon hôtel, j'ai mangé une pizza debout seul dans un établissement désert et qui méritait de le rester.
Ça fait envie.
La pâte de la pizza était infecte. Mmh. Le décor était constitué de carreaux de mosaïque blanche et de lampadaires en acier gris. On se serait cru dans un bloc opératoire.
Et oui, c'est aussi une réalité de la pizza en France. Hein.
Et voilà. Et les années 90 consacrent ce phénomène de la pizza livrée à domicile, rarement auréolé d'une description louangeuse. Hein, dans une nouvelle de Tonino Benacquista qui s'appelle Pizza d'Italie, publiée en 93, on a un tableau horrifique des habitudes alimentaires des collègues du commissariat. Il dit, c'est la plus grande folie des collègues, donc forcément ma hantise. Ces cons-là sont pendus au téléphone dès 11h, qu'ils tapent un rapport, interrogent un client ou attendent la relève. On ne peut plus les croiser sans un triangle visqueux et nauséabond qui leur glisse des lèvres. Ça change du sandwich et de la croix, ils disent. Tous, ils ont boycotté le café d'en bas et depuis, ça pue le gratin de mozzarella et le pepperoni gluant. Vous voyez que, bon...
C'est glauque.
C'est un peu glauque. On a quand même des passages de cette littérature un peu plus... où la pizza a une belle part et une belle présentation chez Philippe Delerme, notamment dans un texte court tiré de Dickens, Barbe à papa et autres nourritures délectables. On a une très belle pizza végétarienne qui offre une quantité mirobolante de fonds d'artichauts, de gruyères, de tomates et qui aide les voyageurs dans la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare à attendre leur train qu'ils ont perdu. En fait, il est une littérature hexagonale qui a pleinement donné à la pizza ses quartiers de noblesse. C'est la littérature marseillaise, et pour cause, puisqu'Alessandra nous l'a bien expliqué, la cité phocéenne est l'autre patrie de la pizza. Jean-Claude Izzo, dans sa trilogie marseillaise, célèbre ce mets simple, accessible, déclinable à l'infini, et nous y découvrons toutes les déclinaisons locales de ce mets. Ainsi, dans Total Kéops, nous pouvons manger ce que Izzo appelle la focaccia, 2C1CH, hein, qui lui prépare Honorine, la voisine de son héros Fabio Montale. Et la focaccia, il l'explique, cela relève du croque-monsieur, mais avec de la pâte à pizza. À l'intérieur, on met ce que l'on aime et on sert chaud. Ce soir, c'était jambon cru et mozzarella, et on la déguste dans un bateau au bord de la mer. Plus loin dans le roman, on parle aussi d'une pizza au suppion. Évidemment, les petites sèches méditerranéennes. On parle aussi dans Chourmeau de la pizza au figadé. Je le prononce un peu à la corse.
Évidemment. Ça, c'est la saucisse corse à base de foie de cochon.
Exactement, pour convoquer la communauté corse qui peuple la cité. D'autres auteurs comme Gilles Del Papas évoquent d'autres habitudes marseillaises. Pour Gilles Del Papas, la pizza, c'est au petit-déj, puisque les pescadous mangeaient cette pizza au petit-déjeuner. Enfin, un usage qui est le camion pizza, puisque je voulais terminer par le camion pizza, c'est dans le roman d'Adrien Belz, 5 dans tes yeux 2020, qui montre le changement de sociologie à Marseille aujourd'hui avec l'arrivée des bobos, ce que l'auteur appelle les venants. Et le narrateur se rappelle de son enfance et le soir, j'allais chercher la pizza au camion Les Deux Frangins en bas de la montée du Saint-Esprit. Aldo pétrissait sa pâte pendant que le vieux Carbone nous chantait son opérette de fils d'immigré napolitain déçu de Mitterrand et qui n'avait pas honte de dire en 80 j'ai voté pour lui, maintenant je vote Le Pen. La politique ici c'est comme les lasagnes, on recouvre de sauce bien épaisse. J'aurais envie de dire, la politique à Marseille c'est comme la pizza moitié-moitié, salée et piquante avec des anchois, acidulée et douce avec de l'emmental.
Merci beaucoup Stéphane Soulier pour cette évocation littéraire de notre pizza à la française. Dans un instant, une délicieuse pizza créative préparée par Bartolo. On peut s'attendre à quoi ?
On s'attend à la carotte.
Waouh ! Carotte à la place de la sauce tomate.
À la place de la sauce tomate, exactement.
Et ça va être cuit en direct. Hein.
Oui.
Et vous avez une petite pause musicale justement pour faire cuire votre pizza. Super. Il y aura bien entendu la chronique vin de notre ami Jérôme Gagnès. Andiamo a mangiare la pizza.
Ho perso il cuore d'un amico vero, ho perso tutti e non ho più nessuno. Ho dato amore ma non sono stato sincero, ed ho mentito senza rimorso alcuno. Ho avuto un padre, dico un padre vero, che vi ha mostrato cosa vuol dire essere uomo. Ma ho scelto di voler restare bambino, di non seguire l'esempio di nessuno. Ho perso il cuore ed il mio amore vero, l'ho perso ed ora non so più chi sono. Ho dato amore ma non sono stato maturo, e senza amore dovrò vivere. Le ho regalato tutto ciò che avevo, ma quel che avevo poi non era molto, e ho preso tutto derubando il destino. Ma il destino non è preda facile, forse ho mentito sempre, o forse sono troppo sincero, e da una fragile mente, o sono solo immaturo, o più probabilmente non voglio pensare al futuro, perché sono quasi sicuro che sbaglierò per sempre. Nessuno.
Quelle jolie chanson, c'était Alessandra.
Un momento migliore de Andrea Laszlo de Simone.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
À Paris, la pizza napolitaine à la côte. Pâte épaisse et moelleuse ou pâte fine et croustillante, chacun à sa préférence. L'important, c'est de se régaler.
On en parle beaucoup depuis une quinzaine d'années, cette pizza prétendument authentique et napolitaine, cette tendance d'une pizza avec des trottoirs très gonflés, comme les bouées d'alerte à Malibu, nous dirait notre ami Bartolo. Vous avez un petit problème avec cette pizza napolitaine nouvelle génération ?
Non, je n'ai pas vraiment des problèmes, c'est juste qu'on a un peu confondu le savoir-faire du pizzaiolo avec ses corniches. Ça veut dire, plus on a l'impression que la corniche, donc le cornichon est gonflé.
Là, on parle des trottoirs, les rebords. Hein.
Exactement, les trottoirs, les rebords de la pizza. Plus on a l'impression que le pizzaiolo est doué. Mais pas du tout. En gros, en fait, tout se joue sur la farine. Là, on est face à des farines qui gonflent, même si on n'a pas envie que ça gonfle, parce qu'ils sont quand même des farines standardisées qui viennent de très loin. Donc, c'est pas forcément une question de savoir-faire, c'est une question des choix de la farine. Je pense que le seul savoir-faire, c'est les meuniers qui ont réalisé cette farine avec des blés qui viennent de très loin quand même parfois. Notamment, on oublie que souvent que l'Italie ne peut pas fournir le blé, même pas pour les Italiens. On n'arrive même pas à couvrir le besoin national. Et la France, c'est le premier pays producteur et exportateur de blé en Europe.
Et donc, c'est un peu les réseaux sociaux qui auraient en quelque sorte esthétisé cette pizza. Plus c'est gonflé, plus c'est spectaculaire. C'est en quelque sorte une pizza qui fait de la gonflette et qui revendique des textures très molles.
Exactement, ça c'est vraiment...
Ça c'est une tendance aussi alimentaire de fond, hein, qui est dangereuse.
Oui, c'est un peu cette force du mou, hein, pour citer le livre de Géraldine Mosna-Savoie. C'est vraiment le mou et les textures un peu américaines, un peu cette américanisation des textures. Le salé, le sucré, le mou font partie un peu de cette américanisation. Et c'est vrai que, figurez-vous, même l'outil pour couper la pizza, la roulette, elle a changé, il y a des ciseaux maintenant, parce que la pâte elle est tellement molle qu'on arrive, on va écraser quand même cette corniche, juste pour signaler que par contre cette corniche après une fois qu'elle est froide la pizza elle va devenir caoutchouteuse, forcément parce que ce gluten on va le ressentir ensuite.
Et donc on parle même pas de la digestibilité de cette pizza qui est très aléatoire parce que c'est quand même des
Il y a une force dans la farine qui fait que on se la récupère souvent sur le ventre. Hein.
Oui, absolument. Et ben, forcément, tout ça, c'était un peu accentué avec les réseaux sociaux, avec les stories Instagram. C'est une pizza qui presque disparaît après. Et si elle ne disparaît pas, elle va devenir quelque chose, en tout cas. Parce
la pâte de votre pizza, celle que vous venez de nous faire cuire, elle est fine. Elle a quand même un trottoir. Oui. On sent des alvéoles qui indiquent une parfaite fermentation. Mmh. Il y a du moelleux, mais il y a aussi de la texture. Elle est croustille, fondante. Allez, on la goûte. Vous nous parlez de la garniture,
oui, Bartolo ? C'est la même base de la pizza que vous avez, de la margherita. Mais on a remplacé la sauce tomate par un coulis de carottes. Tout simplement, de la carotte et de l'eau qui est bouillie, comme si on fait une soupe à la carotte. Et cette base, en fait, elle est tellement douce. Le sucre contenu dans la carotte, elle va caraméliser. Et on a coupé tout ça avec des pistaches de Sicile. Et pour finir, un pot de parmesan et quelques morceaux de mozzarella de bouflonne.
Alessandra, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je la trouve extraordinaire. Et puis, un petit peu de parmesan, c'est ça, oui. L'épice, en fait, et qui relève un peu la carotte. Et dans l'ensemble, on ne dirait pas qu'on mange de la carotte. Et ça fait juste un peu le jus fruité, la liaison entre la mozzarella, en fait, et les pistaches délicieuses, croquantes.
Jérôme ?
Ouais, moi, sur le papier, j'étais un petit peu inquiet quand j'ai vu carotte. Parce que j'aime bien la carotte crue, j'aime moins la carotte cuite. Et c'était une divine surprise parce que il y a cette très légère douceur. Mais comme le dit très très bien Alessandra, ça s'intègre extrêmement bien avec la pâte. Et encore une fois, cette pâte est vraiment extraordinaire. Elle est extraordinairement croustillante. Elle a beaucoup de goût, elle a beaucoup de caractère et beaucoup de saveur. Et donc voilà, c'est une très très belle pizza.
Rémi Jérôme aura-t-il le vin pour escorter cette pizza carotte pistache?
On va déguster sur France Inter.
On reste à Bordeaux avec vous, hein, Jérôme Gagnès.
Je vous disais BDX. BDX, ça, c'est le nom d'un vin qu'a créé Stéphane de Renoncourt. Alors, nous reçûmes Stéphane de Renoncourt.
Oui, je m'en souviens.
Au mois de septembre 2020 pour une émission sur Bordeaux. Stéphane de Renoncourt, c'est un consultant mondialement reconnu c'est un amoureux de Bordeaux. Il est dunkerquois, mais c'est un amoureux de Bordeaux. Il est arrivé à Bordeaux au tout début, à la toute fin des années 70. Et il est désespéré, tout comme moi, par cette crise extraordinairement violente qui secoue le vignoble bordelais. Et avec ses petits bras musclés, il a décidé de mettre les mains dans le cambouis et d'essayer de trouver des solutions. Et une des solutions qu'il a trouvées, c'est de s'associer avec deux vignerons, Christophe Québec, qui est dans l'entre-deux-mers, sur le plateau de Rosande, plateau calcaire, un très beau terroir, juste au sud de Saint-Émilion, sur la rive gauche de la Dordogne. Et puis, il s'est associé aussi avec Alain Touraine, du château Bénin, en Côte de Castillon. Alain est un merveilleux vigneron. Et il a produit avec eux deux vins, BDX le jus blanc, BDX le jus rouge. Et alors, je vous cite ce que dit Stéphane. BDX le jus est une tentative. Assumer la noblesse d'un statut de petit vin accessible destiné au plaisir immédiat, fruité, facile, digeste, tout en portant haut et fort l'histoire, la culture d'une région, le message des sols argilo-calcaires. Alors, cher Stéphane, permettez-moi de vous dire que vous vous trompez sur une chose, parce que ça n'est pas un petit vin. C'est un très bel exemple de ce qu'est un beau Bordeaux classique, dans le classicisme le plus pur. Et vous avez raison, cher Stéphane, ça porte le message de ce terroir argilo-calcaire. Là, je parle particulièrement du rouge. Vous l'avez tous goûté. Il y a une chose que j'ai beaucoup aimée dans ce vin. Il y a trois choses. Il y a un joli fruit qui est bien mis en avant. Il y a une belle acidité. Ça, c'est aussi le millésime 2024, mais il y a l'acidité qui rend le vin frais et digeste. Et puis, il y a cette finale. Parce que le vin n'est pas seulement souple. Le vin n'est pas seulement fruit. Le vin n'est pas seulement simple et accessible.
Il y a des petits tanins accrocheurs.
Il y a des petits tanins accrocheurs en finale. Ça en fait un vin d'authentique gastronomie. Donc c'est pour moi un essai magnifiquement transformé. Et il faut dire que dans cette histoire, pourquoi ça m'a beaucoup intéressé aussi, d'abord parce que j'aime beaucoup le vin, c'est le préalable à toute chose, mais aussi parce que la crise est très violente et aujourd'hui le négoce, il paye c'est un vin bio, pour un tonneau qui fait 900 litres de vin bio, le négoce paye à peu près 1 200 € hors taxe. Il faut savoir que c'est en dessous du prix de revient. Le vigneron qui vend son tonneau ce prix-là, il se lève le matin, il travaille à perte. Personne ne peut travailler à perte. Et lui, Stéphane, il a dit, moi c'est pas compliqué, ce sera 2 400 € le tonneau. 2 400 € le tonneau. Le double du prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christophe Québec, ça veut dire qu'Alain Touraine, il travaille pas à perte, il travaille, ils gagnent de l'argent, avec cet argent, ils vivent.
ils sont heureux et ils peuvent aussi investir.
Et c'est pas le cas de tous les vignerons de Bordeaux, c'est
et
moins
c'est loin d'être
dire.
Le cas de tous les vignerons de Bordeaux. Voilà, ça vaut 10 euros, oh là c'est là. Un très joli vin. Et merci et bravo à Stéphane de Renoncourt pour cette initiative. Nous reparlerons d'autres vins de Bordeaux. Cette région traverse une crise qui me touche beaucoup. Et donc, j'aimerais, à ma petite mesure, vous faire découvrir peut-être un petit peu plus souvent, avec l'autorisation de François-Régis.
Ah, carrément. Il profite de l'antenne pour me faire une demande
ouais,
pour l'année
exactement.
Prochaine.
Okay. Je vous fais une demande, François, je voudrais parler un petit peu plus souvent de Bordeaux.
Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Non, non. Hors de question.
Mais, voilà, mais bien en sûr. En tout cas, bravo.
Évidemment. Et rappelez-nous les références rapidement.
Bordeaux, le jus BDX, le jus blanc et rouge 2024. Et c'est en vente sur Termillésimé, mais ça, vous trouverez ça sur la page de l'émission. 10 euros. C'est Stéphane de Renoncourt qui est aux manettes.
C'est très, très chouette comme vin, Alessandra.
C'est un vin de plaisir immédiat, frais, désaltérant.
Mais
plein
avec une
de
certaine
fruits.
Complexité. C'est pas tout forcément le vin facile non plus.
Il y a du fond. Il y a du fond. C'est un vin de gastronomie.
Ouais, bravo. Hein. Joli coup que cette très belle cuvée. Allez, on a plein de questions. On croule sous les questions de nos auditeurs et de nos auditrices. À commencer par, on voudrait l'avis de Bartolo, de cette fameuse reine ou Regina. Italien, pas italien, cette pizza, ou c'est une invention française, ou une adaptation française?
C'est une adaptation, parce qu'en en Italie, on n'a pas la regina dans les menus en général dans les pizzerias. C'est vrai qu'elle a joué un peu l'industrie agroalimentaire avec Buitoni, avec la pizza regina. On parlait avec Alessandro de ça. Et non, c'est quand même rassurante comme pizza. Elle est une pizza quand même jambon, fromage et champignons. Mm-hmm. La chose qui est vraiment très française, c'est l'œuf. Ça, je ne vous le cache pas, que l'œuf dans les pizzas, mais c'est juste une translation avec les galettes et les crêpes.
Et oui.
On met la complète, et donc on a tout simplement ajouté aussi, pour rendre la pizza un peu plus nourrissante, des complètes.
Attendez, vous êtes en train de dire qu'on ne casse jamais d'œuf sur une pizza en Italie,
non,
Alessandra?
Non, pas d'œuf sur la pizza.
Ça, c'est un peu tabou.
Non,
Alessandra, je suis sous le choc.
Impossible.
Non, impossible, non.
La pizza doit garder sa dignité, on l'a bien compris. Plein de questions d'auditeurs et d'auditrices, Stéphane.
Oui, beaucoup de questions pour Bartolo en particulier. Alors oui. D'abord, des gens qui, évidemment, évoquent leur plaisir intime. Là, pour le coup, la pizza artichaut de Christophe. Connaissez-vous la calzone et la scarole? On nous demande si on peut évoquer la pinza, excellente alternative peu connue à la pizza. C'est Michel de Plavignal qui nous demande
La pinza, c'est une pâte très hydratée, alvéolée, qui a une texture intéressante parce qu'elle est un peu plus croustillante. Il y a de l'ajout à l'intérieur de la farine de blé, en général c'est de la farine de riz, qui va absorber plus d'humidité, il va nous donner un côté plus croustillant à l'extérieur. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup d'eau dans la pâte pour avoir cet alvéolage et cette légèreté en bouche.
Et ensuite, Rosemary nous demande de parler de la pizza frita de Naples.
Et oui.
Est-ce qu'on peut en dire un petit mot?
Absolument, mais en fait c'est vraiment l'emblème de la fast-food, la pizza frite. Déjà c'est plus pratique parce qu'on va frire un disque de pâte, il y a différents types de formes, donc soit comme une lune, soit comme une demi-lune. Mais c'est clair que c'est un plat vraiment hyper riche, très rassurant, très réconfortant, et c'est facile aussi à faire à la maison, si vous avez une bonne hotte, une bonne extraction, et voilà.
Très bien. Pizza, quand même, Alessandra Pirini m'avait fourni des chiffres stupéfiants. 14 000 pizzerias en France, 5 000 camions pizza, 2500 distributeurs automatiques, 500 kiosques à pizza.
Oui.
C'est un phénomène, et les chiffres le montrent.
C'est incroyable. Donc, oui, vous avez bien dit que les Français en mangent plus en Italie. Il y a 40 000 pizzerias, mais on mange moins de pizza. C'est quand même incroyable. Je pense qu'en France aussi, il y a beaucoup plus de pizzas surgelées aussi, et beaucoup plus de chaînes qui livrent. À domicile, je pense que c'est ça le fait qu'en France on en mange plus.
D'autres questions?
Une question de Claire qui nous a écrit par mail et qui a un amour pour le levain et qui pose la question à Bartolo, puisqu'elle emploie la même méthode que lui, 1+1+1, pas de seigle mais de la farine T80. Combien de temps attendre une fois le levain sorti du réfrigérateur et combien de rafraîchi faire avant de panifier de nouveau? On est dans le technique.
On va y aller hyper rapidement, juste. Pas besoin d'attendre, vous mettez de l'eau à 37 degrés, comme ça, quand vous allez le rafraîchir, le levain il a la juste température à 25 degrés pour développer les arômes et l'acidité nécessaires.
Donc, sachant que tout le processus est expliqué sur le site, moi je vais exactement. L'essayer aussi à la maison. Le levain, c'est effectivement un animal de compagnie qu'il faut régulièrement nourrir.
Oui, par contre, juste je vous rassure, c'est pas un levain de l'époque de Napoléon né du Second Empire. Il était créé à Bordeaux avec l'eau calcaire de Bordeaux il y a 7 ans. Voilà.
Très bien. Et Alessandra, on
nous dit, mais la pizza hawaïenne n'est pas française. Mais vous n'avez pas dit qu'elle était française.
Non, elle n'est pas française du tout, mais on en mange quand même pas mal en France aussi. Hein. C'est quand même une pizza qui est née dans les années 60 à Ontario, au Canada.
Ah oui, carrément.
Donc, elle a fait un long voyage. Et c'est quand même une pizza qui a quand même une histoire. Donc, parfois, on se scandalise devant cette pizza, que bien sûr a utilisé beaucoup trop souvent de l'ananas en boîte et trop sucré. Mm-hmm. Mais bon, faut peut-être réhabiliter certaines choses.
On terminera cette émission sur la pizza hawaïenne, même si la pizza doit garder sa dignité. Ça, c'est vraiment la phrase de l'année. Cette émission était dédiée à Jean-Luc Tartarin, grand chef du Havre, spécialisé dans la cuisine marine. C'est un chef que je connaissais, dont j'appréciais énormément la cuisine, au talent immense, 2 étoiles Michelin pendant plus de 10 ans. Nous l'avions reçu le 10 juin 2017 dans une émission en direct en public du Havre. Il nous a quittés brutalement à l'âge de 59 ans et j'adresse mes condoléances à sa femme Annabelle et toutes ses équipes qui ont décidé de garder le restaurant Tartarin ouvert au Havre pour poursuivre l'aventure. Bonne fête à toutes les mamans, à commencer par les nôtres. Oui. La semaine prochaine, vous serez tous sur les fromages de chèvre. Reportage, explications et recettes avec notre expert du monde fromager, Pierre Coulon. À dimanche prochain, si vous avez encore faim. Merci à tous.
Merci.